Cette parole, Jésus nous l'a confirmée dans toutes ses parties. Ce qui m'a fait croire à l'inspiration de l'Écriture, c'est l'autorité de Jésus-Christ qui a revêtu le jour de sa résurrection. Il a revêtu de son autorité la loi, les psaumes et les prophètes, c'est-à-dire toute l'écriture, tout ce qu'on appelait l'écriture à ce moment-là, puisqu'il n'y avait pas les évangiles, il n'y avait pas encore les épîtres. Alors, nous allons reprendre, si vous le voulez, notre chapitre, tel que vous l'avez lu dans son contexte. Nous l'avons lu déjà hier soir, pour le laisser dans son contexte. Et nous avons trouvé que cet oracle touchant Dumas était précédé d'un autre oracle, d'une parole annonçant la chute de quel pays ? De Babylone. Et nous avons souligné, et vous aurez l'occasion de revoir cela, que l'oracle sur le désert de la mer, qui représente Babylone, qui était pour le peuple d'Israël en exil, un vrai désert spirituel au sein de toute cette agitation que représente la mer, eh bien, cet oracle s'est accompli littéralement. Babylone a été détruite en une nuit. Les Mèdes et les Perses, comme on le voit dans le 5 de Daniel, ont envahi Babylone. Et alors, qu'est-ce que vous savez par l'Apocalypse? Nous savons qu'il y a tout un système qui est en train de se créer et qui est appelé aussi Babylone. Et que la fin, la chute de cette nouvelle Babylone, de cette Babylone moderne, est aussi annoncé, et que sa chute, malgré tous les espoirs que l'on met en cette Babylone, eh bien, cette chute aura lieu. Et à un moment où le monde dira « paix, paix et sûreté », une subite destruction viendra sur ce grand système qui est en train de se préparer pour fournir au monde un gouvernement mondial aussi bien politique que religieux. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir cela. Alors, je vous dis cela en passant. Ce qui sait accompli littéralement au sujet de Babylone et qui était annoncé par le prophète Ésaïe. Et c'est spécialement ces prophéties qui se sont accomplies littéralement qui ont amené à la fois plusieurs hommes très intelligents mais qui étaient incrédules jusqu'à ce qu'ils aient reçu la grâce de comprendre les Écritures, quand ils ont bien voulu avoir l'humilité de lire les Écritures. J'ai entendu un Autrichien, cette année même en Italie, et qui est professeur, et qui donnait son témoignage, lui qui était incrédule, il a été amené à la foi par la lecture des Écritures, en étant convaincu que les choses qui étaient prédites à l'avance se sont accompli. Et il a eu assez de droiture pour ne pas tomber dans le piège, évidemment, de tout ce que le monde moderne, même religieux, prétend, qu'il y a deux Ésaïe, plusieurs auteurs d'Ésaïe, même trois, de sorte que depuis le chapitre 40, ce n'est plus de la prophétie, c'est simplement une histoire, des faits qui sont racontés, c'est quelque chose d'historique, c'est pas du tout quelque chose de prophétique. Parce que dans le monde dit chrétien, on ne croit pas à la prophétie. Dans un certain monde dit chrétien, on ne croit pas qu'on puisse annoncer à l'avance certains événements. Eh bien, c'est mettre de côté toute la Bible. Et j'ai assisté à des conférences ici même, en milieu uniquement catholique aussi, et j'étais absolument navré de voir que tout ce qui avait miné le protestantisme de ma jeunesse, dans les écoles de théologie était entré à fond dans les écoles catholiques qui avaient l'air de présenter ces négations comme les dernières trouvailles de la science biblique, alors que cette fameuse théologie qui venait spécialement d'Allemagne était déjà bien connue. Et cela m'a navré de sentir que maintenant que dans les pays catholiques on ose lire la Bible, que la Bible n'est plus un livre fermé, eh bien on fait des études bibliques pour enlever l'autorité de l'écriture. Et c'est ainsi qu'on travaille vraiment à l'apostasie. Il ne restera plus rien. Tout est permis, c'est le laxisme dans tous les domaines, et puis avec ça, eh bien, voilà, on va vers un printemps radieux, non, mes amis. Les communistes ont cru qu'ils allaient vers ce printemps radieux, et nous voyons ce qui se passe en Russie à un tel point qu'on demande au Canada de pouvoir nourrir la Russie. Eh bien, nous sommes heureux que le Canada puisse faire quelque chose. Mais tous ces espoirs qu'on avait mis dans le marxisme, dans 20 ans, je me souviens avoir vu à Nice cette grande affiche, en Russie, dans 20 ans, le pain gratuit. Hein? Ben, moi, je l'ai vu. Je n'invente rien. Mais on a illusionné le peuple. Et c'est quelque chose de dramatique. Nous n'avons pas honte de croire à la parole de Dieu. Mais j'ai entendu un professeur très en vue qui disait au sujet de la Bible, dans une conférence où il n'y avait justement que des religieux catholiques, et des religieuses, je serai féroce avec la Bible. Et qui insistait en disant que si on avait pu mettre la Bible dans un ordinateur, eh bien il ne resterait pas grand-chose. Il resterait, il faut quand même le dire, Jésus. Il resterait au moins Jésus. Mais il a démoli tout l'Ancien Testament. Le Pentateuque, donc les livres de Moïse, il a démoli les prophètes antérieurs, ce qu'on appelle les livres historiques, les psaumes et tous les saints écrits. De sorte que, oui, il resterait Jésus. Et alors, moi, ce qui me bouleverse, c'est les applaudissements. Tout le monde a applaudi, tout le monde. Bien sûr que moi, je ne voulais pas applaudir ça. Mais quand vous êtes là dans un groupe pareil, il y avait peut-être 300 personnes, alors vous vous dites, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, oui, le Seigneur m'y avait envoyé quand même. Alors, j'ai un témoignage à rendre, un quart d'heure de pause, la pause café, puis on nous donne la parole à ceux qui le veulent. Alors là, je me lève et j'essaie de leur montrer très gentiment, il n'y a pas besoin de se bagarrer. Mais enfin, selon ce que le Seigneur nous a donné comme instruction, tâche de trouver quelque chose de juste dans tout ce qu'il a dit. Comme il a dit qu'il respectait Jésus, c'est juste. Alors, je commence comme Jésus a commencé dans la critique qu'il va faire aux sept églises d'Asie. Il commence par quelque chose de juste, qui est bien, qu'on peut relever de juste. Et puis, alors je vais remercier ce grand jésuite de nous avoir dit qu'il resterait Jésus. Mais j'avais une question, alors ce n'est pas l'homme qui veut enseigner, mais je voudrais que vous nous disiez de quel Jésus vous parlez. Car le Jésus que je connais, c'est celui du chapitre 24 de Luc, qui a expliqué à ses disciples tout ce qui le concernait dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Alors, de quel Jésus nous parlez-vous? Alors évidemment, tout de suite, il dit, oh, je vois, cher monsieur, que vous êtes un disciple de Karl Barth. Non, pas du tout. J'ai connu Karl Barth, mais je ne suis pas disciple de Karl Barth. J'ai eu à ma table Karl Barth, c'est vrai, j'ai eu ce privilège, je l'aimais bien, mais je ne suis pas son disciple, je suis un disciple du Christ. Et l'évangile que je connais, l'évangile que je prêche, eh bien, c'est cet évangile qui est capable de transformer des vies, de changer complètement des vies. Alors l'homme, il a refusé le combat, il a dit, eh bien écoutez, la position du pasteur Racine est peut-être bien meilleure que la mienne. Alors tout le monde a applaudi. Et ben, alors, c'est ça qui m'effraie. On manipule. Tout le monde applaudit. Alors on avait applaudi lui, on m'a applaudi moi. Mais à la sortie, tant de personnes sont venues me dire merci d'avoir eu le courage de dire ce qu'on n'osait pas dire. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le dise pas? Mais ils ont de tels titres. On est paralysé par des titres. Or, ces hommes, comme je dis souvent, quand ils ont mal au ventre, ils font les mêmes grimaces que moi. Mais c'est pourquoi est-ce qu'on est paralysé par la chair? Qu'est-ce que c'est que la chair? N'est-ce pas? La chair, c'est la chair. Et nous ne devons pas être paralysés par les titres. Nous pouvons respecter les titres. Je respecte ceux qui ont beaucoup plus de connaissances que moi. Mais la reconnaissance que nous voudrions que vous ayez chacun de vous, cette connaissance qui surpasse toutes les autres, c'est l'amour du Christ, dont nous connaissons la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Non, nous ne la connaissons pas. C'est infini. Mais on y est baigné totalement. Alors, nous croyons donc à l'inspiration de l'Écriture, parce que nous voyons, quand nous lisons l'Écriture, que ces prophéties se sont accomplies littéralement. Alors, après la prophétie de Babylone, que vous pouvez contrôler, vous avez l'oracle sur Dumas. Et comme vous l'avez trouvé, Dumas, donc, serait un fils d'Ismaël. Et alors, quand vous lisez, on me crie de Séir. Et vous avez bien fait de chercher ce que pouvait être Séir. Et vous l'avez trouvé dans le livre de la Genèse, et cela va nous aider à répondre à la question, à une des questions suivantes, au chapitre, qu'est-ce que vous avez dit, 32 déjà, quel verset? Le verset 3. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Hein? Dans le territoire d'Édom. Donc, Ésaü habitait la montagne de Séir, dans le territoire d'Édom. Et maintenant, si vous lisez au chapitre 36, vous avez la postérité d'Ésaïe. Voici la postérité d'Ésaü, verset 1, qui est Édom. Donc vous savez avec certitude qu'Ésaü c'est Édom. Quand vous trouvez Édom dans les prophètes, vous savez qu'il est question des descendants de d'Ésaü et non pas de Jacob. C'est clair. Hein? Ésaü c'est Édom. C'est dit en toutes lettres là. Et puis il est parlé ensuite au verset 4. Ésaü, au verset 6, Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob son frère, car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble. Et la contrée où ils séjournaient ne pouvaient plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir, et puis il est répété, Ésaü, c'est Édom. Alors, vous voyez que une lecture simplement partielle de l'Écriture ne vous donne rien. Il faut lire l'Écriture depuis la première page à la dernière, et pas seulement en une nuit, hein, comme notre chercheur l'a dit, je veux bien que vous ayez une nuit de veille et de lecture biblique, mais il faut lire et relire, mais pas simplement cette petite portion pour nous faire du bien, parce qu'il ne faut pas qu'une tuile nous tombe sur la tête aujourd'hui, mais pour apprendre à connaître ce merveilleux livre, ce merveilleux trésor dont on n'a pas fini de connaître les richesses. Et il faut que cette parole ne soit plus dans les couvertures du livre, comme je le dis souvent, mais qu'elle habite dans notre cœur et qu'elle se fixe dans notre sensibilité et que le Saint-Esprit, justement, puisse devenir notre véritable mémoire et nous rappeler au temps opportun une parole que nous n'allons pas piquer quelque part dans la Bible, mais que le Saint-Esprit nous rappelle dans un ordre qui est vraiment merveilleux et qui nous bouleverse. La mémoire du Saint-Esprit, pour ceux qui n'ont pas de mémoire, hein, c'est vraiment le consolateur. Mais pour qu'on ait quelque chose en mémoire, il faut mettre quelque chose dans la mémoire. Hein. C'est comme dans tout ce qui est moderne, il faut mettre dans les ordinateurs, il faut y mettre quelque chose d'abord. Ça vient pas tout seul. Alors, mes amis, l'oracle sur Dumas. On ne crie de Séir. Maintenant, nous avons la vraie position de l'oracle. Sentinelle. Et cette sentinelle, eh bien, comme vous l'avez vu, que savez-vous d'une sentinelle? C'est quelqu'un qui fait le guet. C'est quelqu'un qui veille et qui doit avertir de tout danger. Et évidemment, une sentinelle, comme vous l'avez vu, si vous voulez dire quelque chose sur la sentinelle, c'est Ézéchiel 33. Sa tâche, sa responsabilité, c'est quoi? C'est d'avertir, c'est de veiller, c'est d'être attentif. Elle n'a rien à dire d'elle-même, mais elle doit dire ce qu'elle voit. Elle doit dire ce qu'elle entend. Donc elle ne doit pas dormir. Elle ne doit pas s'assoupir. Alors, vous pourriez parler longuement des dangers qu'une sentinelle a, et plus le matin approche, vous le savez, plus la nuit se fait obscure. Plus la nuit se fait obscure et froide. Et il y a comme une espèce d'engourdissement. Et la sentinelle, c'est les moments les plus difficiles. Alors nous croyons que nous sommes arrivés dans ces temps difficiles aussi, pour la sentinelle, où nous risquons justement de nous endormir, où nous risquons justement parce que la nuit se fait plus obscure, nous risquons de nous refroidir. Car si je lis toute la parole et que toute la parole a de l'autorité sur mon cœur, je sais que dans les derniers jours, ce n'est pas la foi qui ira en augmentant, mais on se demandera où est la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, quand on sera proche de sa venue, trouvera-t-on de la foi sur la terre? Qui est-ce qui a dit cela? Jésus, chapitre 18 de Luc. Et puis, au sujet de l'amour, qu'a dit Jésus? Est-ce que l'amour sera brûlant pour le Seigneur dans les derniers jours? Chapitre 24 de Matthieu. Parce que l'iniquité prévaudra, parce que le péché envahira tout, l'amour de plusieurs se refroidira. Donc, diminution de la foi, diminution de l'amour, et quant à l'espérance chrétienne, qui est-ce qui croit vraiment à cette bienheureuse espérance? Mes amis, qui est-ce qui y croit? Allez dans le chapitre 2 de la, aidez-moi, deuxième, non, dans le chapitre 3 de la deuxième épître de Pierre. Et vous verrez ce que les incrédules diront dans les derniers jours. Verset premier, je lis au chapitre 3. Voici donc, voici déjà bien aimé, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par des 20 prophètes, des saints prophètes, par des saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par qui? Par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dans le commencement de la création. Ils veulent ignorer, c'est ça qui est très grave, et c'est grave pour moi, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre, etc. Et vous connaissez la suite. Nous savons qu'il n'y a pas de retard au sujet de la promesse du Seigneur. Bien sûr, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Mais si le Seigneur n'est pas encore venu, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Vous voyez qu'il est question d'une promesse, verset 9. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à quoi? À la repentance, voilà le remède, n'est-ce pas? Vous voyez comme ça colle avec ce que nous allons voir dans l'oracle de Dumas. Il voudrait que tout arrive à la repentance, c'est là le remède. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ça va jusqu'à la fin, cela. Donc, nous voyons que il y a des moqueurs qui disent où est la promesse de sa venue. Alors, le cri que l'on fait entendre à la sentinelle, il vient donc de Séir. Et c'est donc de la région des dômes de d'Ésaü, hein, des descendants d'Ésaü. Et alors, si vous voulez savoir quelque chose sur ce qu'a été Ésaü vis-à-vis d'Israël, lisez quel prophète? Abdias. Vous l'avez trouvé. Lisez le prophète Abdias. C'est pourquoi, effacez tous les livres de la Bible qui sont importants. Ne dites pas, oh, mais celui-là est plus important qu'un autre. C'est la Bible tout entière. Et quand on parle d'inhérence des Écritures, nous croyons justement à ce grand message qui ressort avec une unité extraordinaire quand on accepte tous les textes. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est une recherche qui vaut la peine. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel sur Édom. Alors vous savez qu'Édom, c'est Ésaü. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet d'un grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites dans le creux des rochers, la montagne de Séir, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai de l'Éternel. Mais je ne vais pas vous lire tout ce prophète Abdias. Mais si vous voulez savoir, n'est-ce pas, la mentalité des descendants d'Ésaü contre Israël, eh bien, vous trouverez ça dans Abdias. Et ce qui leur est reproché, c'est que quand Israël, ou quand Juda en particulier, a été emmené en captivité à Babylone, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réjouis. Et ils ont aidé à ce désastre. Ils se sont réjouis du malheur des descendants de Jacob, qui étaient emmenés en captivité à cause de leur péché. Et je dirais, mes amis, que même un prophète, quand il devait parler contre un peuple, il le faisait dans la souffrance, même si c'était un peuple ennemi de Dieu. Vous avez ça à travers toute la Bible. Même les prophètes étaient bouleversés quand ils devaient donner une parole de jugement contre un autre peuple. On ne se réjouit pas du malheur des autres. Mais on prend garde en se disant, si ça leur est arrivé, qu'est-ce qui pourrait aussi m'arriver? Comprenez-vous? Alors, donc, le cri viendrait, nous le pensons, de cette montagne de Séir, des descendants d'Ésaü, donc, et qui n'ont pas cru, parce que ce qui est dit d'Ésaü, il faudrait redire toute cette histoire d'Ésaü, et vous verriez pourquoi, à un moment donné, et bien longtemps après sa naissance, c'est pas avant sa naissance, il a été dit dans Malachie, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais ce n'est pas un parti pris de Dieu. Mais Ésaü a méprisé la parole de Dieu. Dieu avait donné à la famille un droit d'aînesse qui venait donc de Dieu. C'était une faveur que Dieu donnait à l'aîné d'une famille. Et quand vous recevez une faveur de Dieu, vous ne devez pas la mépriser. C'est pourquoi j'ai employé peut-être malheureusement le terme de profane en parlant d'Ésaü, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas moi qui l'ai employé ce terme. C'est l'Écriture même qui dit que Ésaü a été profane parce qu'il a méprisé un droit divin. Et pour quelle raison?
Parce qu'il pensait qu'il allait mourir.
C'est tout ce qu'il avait pensé, la mort.
De toute façon, je vais mourir, que m'importe mon droit d'élève, n'est-ce
pas? Ésaü, c'est le type qui attendait la mort, oui. Le grand chasseur devant l'Éternel, bien supérieur à Jacob. Au point de vue mondain, Ésaü est beaucoup plus sympathique, presque. C'est un chasseur, vous pensez, pour les Canadiens, hein? Grand chasseur devant l'Éternel, hein? Alors, vous avez là, comme patron, Ésaü. Et le père Isaac, il aimait bien le gibier, alors Ésaü, eh bien, était le préféré d'Isaac. Mais voilà, Dieu avait fait une promesse au sujet de Jacob, que le plus grand serait asservi au plus jeune. Et qu'est-ce qu'il croyait à cela? La mère, hein? Rachel, mais hélas, et c'est cela qu'il ne nous faut pas faire, vouloir nous-mêmes réaliser les prophéties. C'est ce qui arrive à Israël maintenant. Tant qu'Israël pense pouvoir réaliser par leur propre force, par leur armée, les prophéties, c'est la catastrophe. Mais le jour où Dieu interviendra selon les prophéties au sujet d'Israël, vous verrez le changement. Mais ce qui arrive maintenant, c'est que ce peuple veut réaliser les prophéties d'Israël. Et c'est là que nous sommes dans l'erreur. Alors on veut détruire la mosquée d'Oma pour pouvoir reconstruire le temple, parce que l'Écriture annonce qu'il y aura un nouveau temple. Et c'est la catastrophe. Il nous faut être sages. Et en rester dans la dépendance du Seigneur, quand l'heure sera venue. Si Moïse voulait faire sortir Israël un peu avant l'heure, qu'est-ce qu'il arrivait? Il tuait et il devenait quoi? Un assassin en fuite. On m'a reproché cette phrase. Parce que j'avais dit que Moïse était un assassin en fuite. Pour quelle raison? Ben c'est vrai, il avait tué. Hein? Alors il faut appeler les choses par leur nom. N'est-ce pas? On peut être saint, je ne dis rien contre Moïse, mais la Bible, justement, elle nous montre nos failles, elle nous montre nos déficiences. Et tout cela est écrit pour nous servir d'exemple pour ma propre formation. Si je crois aux prophéties, je n'ai pas à vouloir les réaliser maintenant, mais à attendre leur accomplissement. Comprenez-vous? Et en attendant, alors, je crois. Mais je suis sûr de ces choses. Et je les ai dans mon cœur. Et je ne suis plus ballotté, ça et là, par tout vent de doctrine. Alors, ce cri qui vient donc des descendants d'Ésaü, de cet Ésaü qui a méprisé son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et relisez le texte, vous verrez comment il a méprisé. Il a dit, qu'est-ce que c'est du droit d'aînesse? Je vais mourir. Et on ne meurt qu'à son heure. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux? Tout d'un coup, quand il est réalisé que non seulement il avait perdu son droit d'aînesse, mais que son frère, par un mauvais tour, hein, en suivant les conseils de sa mère, son frère lui avait ravi la bénédiction qu'il aurait dû recevoir. La bénédiction a été donnée à qui? À Jacob. Alors, quand il a vu, relisez le chapitre 27, quand il est arrivé trop tard, et que son père lui a dit, la bénédiction, je l'ai donnée. Alors il reste rien pour moi, il s'est mis à gémir, à pleurer, et c'est ce que beaucoup feront peut-être. Je lis au chapitre 12 des Hébreux. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui veut vous priver de quelque chose, mais c'est vous qui pourriez vous priver de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü. Ésaü est appelé ici profane, ni profane comme Ésaü, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Vous voyez que d'habitude, quand on se repent et qu'il y a les larmes, j'ai fait une fois une étude quand j'étais très jeune, j'avais 16 ans, j'étais malade et j'avais du temps puisque je ne dormais pas dans les nuits d'hôpitaux. Eh bien, je faisais les larmes à travers toute la Bible. Je n'avais pas la Bible Scofield, je n'avais pas les chaînes, mais je faisais moi-même mes chaînes. Les larmes à travers toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Cette grande vallée de larmes, ce fleuve de larmes. Et vous savez, ça passait vite la nuit. Quand on est occupé de la parole, quand on la lit, quand on s'en nourrit, n'est-ce pas, et qu'on voit cette unité, eh bien, j'avais vu les quelques exceptions, toujours, même une servante égyptienne qui pleure, Dieu répond, et lui envoie un ange au désert, quand elle a été chassée, quand elle s'est sauvée, parce que sa maîtresse la maltraitait. Dieu répond aux larmes de la servante. Dieu répond aussi aux larmes d'un Jacob. Comment est-ce qu'il a vaincu cet homme qui était le Seigneur, qui combattait avec lui? Vous n'avez pas cela dans le chapitre 32 de la Genèse, où il y a le combat. Vous l'avez dans quel chapitre? Chapitre 12, verset 4. Il pleura et supplia. Et c'est comme ça qu'il a été vainqueur de Dieu, quand son nom a été changé. Mais vous voyez, c'est toute la Bible qui vous enseigne et qui vous confirme ces choses. Ne soyez pas effrayés maintenant, je vous cite ces choses, mais pour vous montrer, pour vous donner simplement un peu le goût de lire la Bible. Oh, je sais bien que vous aimez mieux faire peut-être des patients. Comme Charles de Gaulle, qui est mort en faisant de patience. Mais pourquoi est-ce que si vous deviez mourir, vous ne mourriez pas en lisant la Bible? Ce ne serait pas merveilleux? On sait faire des patiences, on sait faire des mots croisés pour se passer le temps et toutes sortes de choses, des puzzles. Hein, vous aimez faire cela aussi peut-être, vos enfants? Eh bien, quand vous êtes saisi par l'Esprit de Dieu, et qui vous montre ce qu'est l'Écriture sainte, eh bien oui, vous ne profanez pas les promesses du Seigneur. Vous les prenez au sérieux. J'ai regardé un petit peu le sens du mot profane dans les différentes traductions. C'est mépriser quelque chose de sacré. Et voyez-vous, la pensée que le Seigneur peut venir d'un instant à l'autre et nous délivrer de la sainte présence, eh bien, c'est une promesse sacrée. Et je ne veux pas pour moi la profaner. Je veux la croire. Je ne peux pas vous obliger à la croire. Si vous êtes heureux avec vos convictions, gardez vos convictions. Mais je veux simplement témoigner ce que m'apporte ma foi toute simple dans les promesses du Seigneur. La sentinelle répond le matin, viens. Donc, ce cri vient plutôt de ce monde qui n'y croit plus à ce retour du Seigneur, à cette venue. Parce que le matin, nous allons, je ne vais pas m'allonger là-dessus, puisque nous avons encore deux jours, nous allons élaborer sur ce que peut représenter le matin dans l'Écriture sainte. Parce que je ne veux pas que vous partiez avec mes idées, mais que vous partiez avec des certitudes que vous retrouverez dans la Bible. Les cassettes, bien sûr, peuvent vous rappeler certaines choses. Mais ce qui compte, c'est pas les cassettes, ce ne sont pas les cassettes, c'est votre lecture personnelle de l'Écriture dans la dépendance du Saint-Esprit. Et quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous dites, Seigneur, éclaire-moi, montre-moi. Le matin vient, et la nuit aussi. Mais vous voyez, quand la sentinelle dit, qu'en dis-tu de la nuit? Donc même en aidant, on sait qu'on est dans la nuit. N'est-ce pas? Le monde sait très bien que nous sommes dans la nuit. Et pourquoi sommes-nous dans la nuit? Nous verrons cet après-midi. Hein. Nous sommes dans la nuit, maintenant. Alors, c'est de la nuit que le cri part. Le monde sait très bien qu'on est dans la nuit, tout au fond. On n'est pas dans la lumière, on est dans la nuit. Mais la sentinelle a une parole d'espérance. Le matin, alors, est-ce que vous êtes du matin? Est-ce que vous êtes du jour? On a lu cela dans le chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens. Nous ne sommes pas de la nuit, mais nous sommes du jour. Nous sommes dans la nuit, c'est vrai, mais nous attendons le jour. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il faut faire la distinction. Alors, nous attendons le matin, donc nous avons une espérance. Mais la nuit vient aussi, parce que le jugement va venir sur ce monde. Je l'ai dit hier, Jésus a pris la colère de Dieu le jour de la vengeance, il l'a subi à la croix du calvaire, pour que personne ne le subisse. Mais si nous refusons Jésus, si nous refusons le Seigneur, qu'est-ce qui arrivera? La colère demeure sur nous. Mais toute l'Écriture nous dit que nous attendons, nous sommes sauvés pour attendre Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Parce que la colère, elle vient. Mais nous attendons non pas la colère à venir, mais nous attendons Jésus. Nous attendons la délivrance. C'est pourquoi dans l'Épître à Tite, au chapitre 2, au verset 11 et suivant, il est parlé d'une bienheureuse espérance, la grâce qui nous apporte le salut, qui est apparu à tous les hommes, nous enseigne comment nous avons à vivre dans ce présent siècle, dans ce monde actuel, dans la sobriété quant à nous-mêmes, dans la justice quant à nos relations avec nos frères, et dans la piété quant à notre relation avec Dieu. Il faut qu'on ait une relation avec Dieu. C'est ça la piété. La piété, c'est être relié à Dieu. C'est ça la vraie religion, un rapport direct avec Dieu, comme Jésus l'avait. Il ne faisait rien qu'il n'avait vu faire par le Père, il ne disait rien qu'il n'avait entendu dire par le Père. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que la sentinelle répond à ces doubles questions, parce que le monde est quand même préoccupé. Qu'en dis-tu de la nuit? Qu'en dis-tu de la nuit, sentinelle, que dis-tu de la nuit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Deux fois la question est posée. Donc, il y a quand même une préoccupation. Et il n'y a qu'à lire les journaux, on voit que le monde est préoccupé, quand même. La sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, mais si vous voulez, c'est pas si vous pouvez. Jésus dit, vous n'avez pas voulu venir à moi pour avoir la vie. C'est pas que les gens ne peuvent pas, mais c'est qu'au fond, ils ne veulent pas. parce que Jésus est un gêneur. Mais vous voyez que le salut est tout différent de ce que la plupart du temps on présente, même dans nos réunions d'évangélisation. Le salut, c'est pas le petit salut pour pouvoir échapper à l'enfer, aux peines éternelles, pour pouvoir mourir en paix, pour avoir une bonne place dans le ciel. Le salut, c'est quelqu'un qui vient habiter dans notre cœur. C'est quelqu'un qui nous habite. Le salut, c'est une personne, c'est Jésus, le petit enfant. Mes yeux ont vu ton salut, disait le père Siméon, n'est-ce pas? Mes yeux ont vu ton salut. Le salut, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Alors, si vous voulez interroger, on aura encore l'occasion, vous allez relire ces versets pour que vous les connaissiez par cœur, interroger. Et alors, le remède, c'est convertissez-vous. Et convertissez-vous et revenez. Revenez à foi. Relisez les prophètes, relisez Jérémie. C'est l'appel qu'il lance à Israël. Reviens, Israël, reviens. Si tu reviens, reviens à moi. Non pas à des doctrines nouvelles, mais reviens à moi. Vous avez abandonné la source des eaux vives pour vous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et c'est de nouveau la déception. Revenez à moi, source des eaux vives. Où as-tu voir la Samaritaine, toute Samaritaine qu'elle était, avec ses Saint-Marie qu'elle n'avait plus, avec le sixième avec qui elle vivait à côté, et, c'est tout, ça fait moderne, et puis, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y en avait un septième, qui pouvait être le fiancé de son âme, Jésus. C'est quelque chose de merveilleux. Tout nous enseigne. Alors elle a pu boire de cette eau qui est devenue une fontaine jaillissant en vie éternelle. Elle est devenue la première évangéliste de la Samarie où est allée après Philippe dont nous vous avons parlé hier et qui était aussi une de ses sentinelles disponibles et qui a pu enseigner un homme de couleur, l'eunuque d'Éthiopie, qui a pu porter l'évangile dans ce pays. Convertissez-vous. Au fond, c'est repentez-vous. Repentez-vous. Changez de sens. Prenez conscience que Dieu n'existe pas seulement, mais qu'il a parlé. Et face à sa parole, étant dans la lumière de sa parole, cette parole qui va nous juger, je me rends compte que je suis à côté de la vérité. Alors, je me repens. Je dis, Seigneur, aie pitié de moi. C'est vrai ce que tu as dit. Quand je regarde mon cœur et que je vois la description que Jésus en a faite dans le 15 de Matthieu ou dans le 7 de Marc, ce qui peut se passer dans mon cœur, les pensées que je peux avoir, mais je pourrais être désespéré, et je sais très bien que ma chair ne va pas changer, c'est pas la conversion qui va améliorer ma chair, mais la conversion me fait porter sur la chair le jugement de Dieu. Et quel est le jugement de Dieu sur la chair? La mort, n'est-ce pas? Mais cette mort, c'est pas à me suicider. J'ai à accepter de mourir dans quelle mort? La mort de mon sauveur. Il a accepté de prendre un corps de chair pour que le péché que moi j'ai commis dans la chair soit jugé, que la loi divine soit pleinement satisfaite. Quand un homme est mort, quel que soit le crime qu'il ait commis, la loi ne peut plus rien sur lui. C'est fini. Il en a fini avec la justice est faite. Eh bien, je sais que je suis mort en Jésus et que maintenant, il m'a entraîné dans sa résurrection et si je vis, c'est parce que lui est vivant. Il est vivant et il veut manifester sa vie en nous. Alors, mais pour que cela puisse se faire, il faut passer vraiment par cette repentance. Et vous savez, la repentance, on la provoque pas nous-mêmes. Moi, je ne vais pas essayer de vous manipuler et de vous amener à la repentance. J'ai entendu un prédicateur qui disait, moi, je suis capable de faire pleurer tout le monde. Il disait, pisser sur le plancher, par les yeux, hein. Il se glorifiait de cela. C'est bon, il pouvait être éloquent, remuant, tonitruant. Bon, et alors, est-ce que c'est ça la repentance? Mouiller le plancher? Non, c'est pas ça. Nous ne manipulons pas. Mais quand tout à coup, on se trouve dans la présence de Dieu, vous savez, on ne tombe pas en arrière. On tombe en avant. Car tous ceux qui tombent en arrière, ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein. Ça, vous pouvez être sûr. Attention à tout ce que vous voyez, à tout ce qui fait une propagande monstre. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui prime l'âme, elle se prosterne. Elle se courbe. Elle adore. Après avoir pleuré, elle a demandé pardon à Dieu. Elle a senti sa misère. Elle dit, c'est vrai ce que tu dis dans ta parole. Mais ben, vous savez, on est tellement orgueilleux qu'on a de la peine à admettre ça. Et pourtant, quand on lui en dit, c'est vraiment mon portrait. Et rien n'y manque. Mais voilà, c'est pour des pécheurs qu'il est venu. C'est pour nous, des misérables, que le Seigneur s'est donné. Il n'est pas venu pour des justes, mais pour des pécheurs. Et alors, la repentance, elle nous est donnée par Dieu. C'est pas moi qui l'invente. On nous dit toujours, la repentance, c'est le côté de l'homme, et puis la foi, c'est le côté de Dieu. Mais non. La repentance, elle est donnée par Dieu. Nul ne vient à moi, disait Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et quand le Père nous attire à Jésus, et que l'on voit la vie de Jésus, et que l'on voit que c'est cette vie-là seule qui peut entrer au ciel, on dit, ben moi je n'y entrerai pas, je n'y entrerai pas. Mais Jésus dit, mais je te la donne cette vie, pour que tu puisses y entrer. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un tête-à-tête, non pas entre le prédicateur et l'âme, mais il y a un tête-à-tête avec le Seigneur. Et quand il y a eu ce tête-à-tête avec le Seigneur, quand on a été seul, quand on a ouvert nous-mêmes la porte, parce que la clé, elle est à l'intérieur, Jésus frappe à la porte, on ouvre la porte, le Seigneur entre, il ferme la porte, et on est en tête-à-tête avec lui, il soupe avec nous et nous avec lui. Alors, il y a une œuvre profonde qui se fait et qui est définitive et qui va se continuer par la grâce souveraine de Dieu. La repentance, oui, elle est donnée. Chapitre 11 des Actes, nous trouvons cela dans le témoignage de Pierre qui raconte ce qui s'est fait à ses collègues. Il raconte ce qui s'est fait à Césarée Maritime et ceux qui le critiquer d'être allé apporter l'évangile à ces païens sont obligés de reconnaître que Dieu avait accordé, verset 18 du chapitre 11 des Actes, ils reconnaissent que Dieu avait donné ou accordé la repentance aussi aux païens. Qu'est-ce qui donne la repentance? C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est pas nous. Mais il nous faut être dans la présence de Dieu. Or, dans nos réunions d'évangélisation, on est bientôt plus dans la présence du monde, parce qu'on emploie tous les moyens du monde, mais on est peu dans la présence de Dieu. Pour qu'il y ait une repentance, c'est pas de la fanfare qu'il faut. Pour qu'il y ait une repentance, c'est le silence. Et c'est pourquoi, mes amis, nous essayons de redonner ici une valeur au silence. Où Dieu lui-même peut nous parler quand les voix humaines se taisent. Alors cette réponse de la sentinelle, qui peut paraître un peu énigmatique, nous allons la considérer encore davantage cet après-midi. Et puis, quant à Esaïe, est-il pour vous un étranger? J'espère que vous allez l'aimer de plus en plus. C'est Esaïe qui nous convainc que la prophétie s'accomplit d'une façon littérale. Et si l'on peut écrire, pour ainsi dire, une vie de Jésus avec ce qu'il a dit concernant sa première venue, nous pouvons croire que littéralement, tout ce qui est annoncé concernant son retour en gloire, sa venue en gloire, s'accomplira aussi d'une façon littérale. Ce sera nos sujets et que nous allons continuer. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que je vais vous laisser pour que vous ayez un peu de temps. Et dans 10 minutes, donc, c'est le repas. Vous avez vu qu'on était 2 groupes. Enfin, ça s'est pas trop mal passé, hein. Vous vous êtes pas trop marché sur les pieds. Alors, nous allons faire la même chose en recommandant encore sa parole à l'action de son esprit pour qu'elle nous devienne de plus en plus familière. Dieu notre Père. Oui, nous faisons confiance à ton esprit que tu nous as donné pour qu'il nous enseigne et qu'il nous donne une conviction dans tout ce que nous allons considérer au travers de ces pages qui ne sont pas venues de la pensée humaine, mais de la révélation que tu as donné à ces hommes que tu avais appelés, qui peut-être, comme le dit Amos, n'étaient pas prophètes, ni fils de prophètes, mais gardaient les troupeaux, et que tu as saisi, comme tu as saisi aussi le doux psalmiste d'Israël, David, ce jeune garçon au teint frais et rosé, que tu avais discerné dans les champs de son père, que c'est merveilleux ta parole, que tu puisses nous saisir les uns et les autres, et que nous devenions dans ce monde, pour le temps où nous y sommes encore, ces sentinelles, vigilants, avertissant les âmes par le témoignage d'une vie